France Culture, carnet de santé, Marina Carrère d'Ancos.
C'est un système de marquage corporel qui régresse fortement dans les sociétés traditionnelles alors qu'il se développe de façon rapide dans un monde occidental. Le tatouage et le piercing concernent en effet une part croissante de la population française. La preuve en chiffres, désormais un Français sur cinq est tatoué, c'est 20% de la population, un chiffre qui a doublé en 10 ans. Et si l'on comptait une vingtaine de salons de tatouage dans les années 80, on en recense plus de 5000 actuellement et ce, dans toute la France et non plus seulement dans les grandes villes. Quant au piercing, 12% des plus de 15 ans en ont au moins un hors lobe d'oreille, soit un peu moins d'une femme sur 5 et d'un homme sur 10. Et les événements se succèdent pour montrer l'intérêt de la population pour ces pratiques. Le 2 février s'est terminée la 12e édition du Mondial du tatouage à Paris, avec près de 500 artistes, et bientôt, le 21 mars précisément, aura lieu la journée mondiale du tatouage. Comment expliquer cet engouement récent? Qui se fait tatouer, percer et pourquoi? Quel sens donner à ce geste selon les motifs choisis? Comment ont évolué ces pratiques que l'on connaît depuis des millénaires? Et quel vécu par rapport aux cicatrices traumatiques ou chirurgicales? Pour en parler, David Le Breton. David Le Breton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, professeur émérite de sociologie, titulaire de la chaire d'anthropologie des mondes contemporains à l'Institut des études avancées de l'Université de Strasbourg. C'est bien ça, j'ai pas dit de bêtises?
Oui. Non, c'est parfait.
Et vous êtes l'auteur de plus d'une trentaine d'ouvrages, dont le dernier est passionnant, Cicatrices, l'existence dans la peau, c'est chez Métayer. On reviendra sur votre livre, bien sûr, mais d'abord on parle tatouage. Si je peux être indiscrète, je peux vous demander si vous êtes tatoué, vous?
Non, je ne le suis pas.
D'accord. Parce qu'on voit effectivement de plus en plus de personnes tatouées de tous les âges. Mmh. On va d'abord faire de l'histoire. On a cru que les premiers tatouages étaient ceux des Égyptiens datant de 2000 avant Jésus-Christ. Et puis, il y a une découverte en 91 qui a révélé l'homme des glaces avec des tatouages datés au carbone 14 à environ 5200 ans. L'homme des glaces aussi, ce serait lui le premier tatoué?
Non, pour moi non. Je pense qu'il faut remonter quasiment aux origines de l'humanité, ou en tous les cas à quelques centaines de milliers d'années. Bien entendu, on n'en a pas les traces. Ce qui caractérise vraiment les conditions humaines, c'est le fait justement de marquer le corps, de se l'approprier à l'intérieur d'une culture, d'une communauté, d'humaniser en quelque sorte ces conditions. Donc on peut penser qu'aux quatre coins de l'univers, des hommes ou des femmes ont été tatoués.
Et on évoque le fait que, pour les scientifiques, en tout cas concernant Otzi, ces tatouages avaient peut-être un but curatif parce qu'ils concernaient surtout les articulations.
Oui, là je ne suis pas non plus vraiment d'accord, parce que finalement, quand on voit aujourd'hui le panel du tatouage dans les sociétés traditionnelles, on y voit par exemple l'appartenance à un genre, hein, la sursignification d'être un homme ou une femme. Bien entendu, il y a une dimension de beauté, il y a le passage à l'âge d'homme ou à l'âge de femme dans les rites d'initiation par exemple. Il y a aussi l'érotisme, la fécondité. Vous avez la valeur personnelle qui peut être associée au fait d'être un grand chasseur, un pêcheur, etc. Et vous avez bien entendu, effectivement, les tatouages curatifs, mais je veux dire, il n'y a pas que ça, c'est d'accord, infiniment plus varié.
Et le plus ancien piercing, lui, il aurait quoi? Plus de 5000 ans aussi?
Ouais, à mon avis, il faut aussi remonter très très loin dans l'histoire et on peut pas en avoir vraiment les traces parce que ces traces des humanités très anciennes ont quasiment disparu. Mais non, je pense que c'est beaucoup plus ancien comme le tatouage que 5000 ans.
Alors si effectivement on réfléchit au sens de ces tatouages à l'époque, hein, c'était vraiment au début l'appartenance à un groupe ou parfois une marque protectrice?
Oui, c'est vrai que l'identité commune est absolument essentielle. C'est une manière de se démarquer des communautés avoisinantes. C'est aussi une manière de marquer sa place à l'intérieur d'un environnement infiniment plus vaste. Pas forcément dans un registre de séparation, puisque on sait bien que ce sont nos sociétés qui ont inventé la séparation entre nature et culture. Mais c'est une manière pour les humains de s'intégrer à l'intérieur d'une communauté plus vaste, cosmique, mais avec une petite différence qui va être visible, qui va sauter aux yeux en quelque sorte.
Il y a des cultures où c'était essentiellement les personnes importantes, les chefs de tribu, les rois qui étaient tatoués et pas les autres?
Non, dans la plupart des sociétés traditionnelles, tout le monde est tatoué. D'ailleurs, c'est difficile, Lévi-Strauss en parle dans ses livres, c'est difficile, c'est même impossible de ne pas être tatoué dans une société traditionnelle où tous les membres qui vous entourent le sont, parce que dans ce cas-là, vous n'auriez pas de place. Ouais. Lévi-Strauss dit que ce serait des brutes, entre guillemets, mais tout simplement, il ne serait pas dans l'humanité commune, quoi. Il serait rejeté de la société.
Et on comprend pourquoi certaines cultures, le visage est tatoué et dans d'autres, il est complètement respecté.
Alors c'est compliqué parce que pour moi, dans beaucoup de sociétés humaines, le visage est aussi tatoué. D'ailleurs, chez les Maoris, par exemple, vous avez des marques, des incisions mm-hmm. avec de l'encre sur la peau, etc. Mais vous avez ça dans beaucoup d'autres sociétés. On voit ça, par exemple, chez les Amérindiens. Il y a les fameuses toiles de George Catlin, Carl Bodmer, qui étaient des peintres du 19e siècle et qui parcouraient l'Amérique du Nord et qui peignent des Indiens qui ont des visages. Il y a même une toile célèbre de Kathleen où on voit un Indien qui a sur le visage l'empreinte d'une main. Vous voyez. Donc non, je crois que c'est très aléatoire parce que évidemment dans nos sociétés le visage est vraiment un lieu essentiel de la reconnaissance de soi et il est intouchable d'une certaine manière en termes de tatouage. Mais dans d'autres sociétés humaines, non, c'est le corps tout entier qui fonctionne comme signe d'identité.
Et puis un peu plus tard et notamment en Occident, il a beaucoup été utilisé pour marquer les prisonniers, les marginaux, pour stigmatiser en fait.
Oui, c'est ça. Là, c'était une marque donc qui sautait aux yeux, qui était plutôt d'ailleurs des cicatrices, des marques au fer rouge, des choses comme ça. Dans d'autres sociétés, au Japon, c'était en effet des tatouages. Ça dépend des sociétés. Mais là, on est dans l'exclusion et non plus dans l'inclusion, comme par exemple dans les sociétés traditionnelles.
Et alors justement, on a l'impression que c'est les deux guerres et puis la guerre du Vietnam qui vraiment sont à l'origine de son essor beaucoup plus large dans le monde.
À mon avis, ça démarre un peu avant, dans le courant des années 60-70, avec particulièrement la mouvance hippie, où il y avait ce bonheur de décorer son corps. Et c'est à ce moment-là où on voit aux États-Unis des tatoueurs se former avec beaucoup plus de talent, de recherche de motifs, etc. Ce sont des hommes ou des femmes qui vont aussi à la rencontre des sociétés traditionnelles, qui vont au Japon ou ailleurs, et puis qui finalement élargissent la panoplie du tatouage antérieur, qui relevait plutôt de la bande dessinée, de motifs scatologiques et autres. Et c'est à partir de là, des années surtout 70, à partir du moment d'ailleurs où des acteurs américains connus comme Jack Nicholson vont s'approprier le tatouage, ça va le légitimer aux yeux des autres, aux yeux des Américains. Et puis très vite, évidemment, le tatouage va sauter les océans, l'océan Atlantique et autres, puis va se diffuser ailleurs en changeant de statut, en changeant de valeur quand même.
Et c'est là qu'il va devenir notamment plus féminin et on en parle tout de suite. Carnet de santé consacré au tatouage, une pratique de plus en plus répandue dans les pays industrialisés, notamment en France. On en parle avec David Le Breton, sociologue et anthropologue. Je le disais, ces dernières années, on a vraiment l'impression que le tatouage est devenu plus féminin. En tout cas, il a vraiment envahi ce sexe.
Oui, tout à fait. Pendant longtemps, le tatouage a été un phénomène essentiellement masculin, viriliste, on pourrait dire, marquant une dissidence sociale. Et les femmes étaient un peu à l'écart, ou alors on trouvait des tatouages sur des femmes prostituées, ou bien c'était des appartenances de bandes, comme par exemple chez les Apaches du début du XXe siècle à Paris, où certaines femmes pouvaient être quasiment propriétés entre guillemets d'un groupe. Mais c'était généralement très dissuasif pour une femme de porter un tatouage. Mais à partir de ces années 70-80, non. Dans la mesure où le tatouage va être plutôt associé à la beauté, à l'esthétisation, et puis finalement prendre sa place à l'intérieur de nos sociétés, dont les femmes progressivement vont en effet devenir de plus en plus importantes parmi les... Et je crois qu'aujourd'hui, elles dépassent légèrement d'ailleurs les hommes,
absolument.
Paradoxalement.
En tout cas en France, oui, effectivement. Oui. Est-ce qu'on constate si les hommes et les femmes ont des tatouages différents, et notamment sur des endroits du corps différents?
Alors oui, effectivement, il y a encore une dimension un peu genrée des motifs. Les femmes, plus souvent, mais il ne faut pas généraliser évidemment, mais plus souvent, les femmes ont des motifs floraux, animaux, paisibles, chaleureux, etc. Alors que beaucoup d'hommes demeurent quand même avec des associations de dessins plutôt de guerriers, les bracelets de fer, les dragons, des choses comme ça. Une connotation un tout petit peu plus agressive, mais aussi on trouvera des femmes qui ont ce type de tatouage et on trouvera des hommes qui ont des tatouages relativement heureux, paisibles, tranquilles. Mais globalement, s'il y a une dimension très genrée, et pour les lieux du corps, à mon avis, non. Quand je vois l'été, je suis très souvent au Brésil, par exemple, quand vous voyez la culture du littoral, enfin les grandes villes du littoral, vous voyez que les hommes et les femmes sont tout autant tatoués sur les mêmes lieux du corps, et notamment toutes les jambes, les bras, les avant-bras, le dos, parfois le ventre, etc. Je vois pas vraiment de différence de lieu du corps entre les hommes et les femmes.
On va parler des raisons pour lesquelles on se fait tatouer aujourd'hui. Quel est le sens de ce geste? On va écouter deux témoignages avant que vous ne répondiez. Le premier, c'est celui de Laura qui s'est fait tatouer. Elle avait 18 ans et elle témoigne dans Le téléphone sonne sur France Inter. Écoutez-la.
J'ai fait ce tatouage quand j'avais 18 ans. C'était pas du tout un acte de rébellion. C'est tout simplement parce que j'ai vécu un événement un petit peu traumatisant et j'avais besoin de le garder, de le matérialiser, tout simplement. Et donc j'ai fait une étoile, parce que pour moi c'est un symbole basique, commun, que tout le monde peut avoir ou peut se faire tatouer.
Et écoutez à présent Sophie, qui témoigne dans Grand Bien Vous Fasse sur France Inter, qui elle a réalisé son premier tatouage, elle avait 60 ans.
Moi je vais bientôt avoir 60 ans. Mes filles qui ont fait leurs études dans différents continents et qui ne vivent pas sur le même, se sont fait le même tatouage, ce qui est un petit, ce qui est sans doute un signe de leur lien, de leur attachement et de leur amour. Et puis, celle qui vit au Canada a continué à remplir un peu, on va dire, mais c'est très courant là-bas. Et comme je suis artiste, j'ai vu des choses qui m'ont beaucoup plu, mais je me suis dit, j'ai pas envie d'être un tableau comme un Modigliani sur le dos. Mais par contre, mon chemin de vie, c'est moi. Et je suis allée chez un tatoueur, certes en Polynésie, chez un tatoueur maori, et je lui ai dit voilà, je veux pas me faire un tatouage maori parce que je ne suis pas de la culture maori, je veux juste faire un tatouage parce que j'aime votre graphisme et je voudrais qu'il raconte mon chemin de vie parce que je sais que vos signes racontent ce que l'on est. Et voilà, donc j'ai un bracelet assez discret en dessous du coude, à l'avant-bras. Et contre l'avis de mes filles, je me suis fait tatouer.
Voilà, deux âges différents, deux histoires différentes, deux sens différents. Quelle est votre réaction?
Oui, ce sont deux beaux témoignages qui renvoient d'ailleurs à l'infinie pluralité des significations du tatouage. Et là, dans le premier exemple, on a une sorte de reconquête de soi, un rite intime de guérison, de réparation, en tous les cas de remise au monde. Et puis pour le second, davantage une réflexivité, l'idée de faire de son corps aussi une sorte d'œuvre d'art avec une signification très précise. Et d'autant plus intéressante que finalement cette dame de 60 ans tourne le dos à la tradition maori, et à juste titre, parce qu'effectivement, avoir un tatouage maori à Paris, quand on ignore complètement qui sont les maoris et la signification des tatouages, je sais que ça ne plaît pas beaucoup aux maoris en Nouvelle-Zélande ou ailleurs, qui pensent que c'est du pillage culturel.
Ouais. À une époque quand même, en tout cas dans nos pays, c'était un peu un geste subversif. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être encore pour se différencier, alors qu'honnêtement, ça fait plutôt rentrer dans une norme aujourd'hui?
Non, parce que vous avez quand même des hommes ou des femmes qui demeurent dans la subversion quand, par exemple, ils tatouent leur visage, hein, leur cou, leurs mains, par exemple. Là, dans mon expérience personnelle, je vois que il peut arriver que ces hommes ou ces femmes se fassent vraiment moquer d'eux ou qu'on les regarde avec inquiétude, avec effroi. Non, pas, mais il faut évidemment une espèce de surenchère aujourd'hui sur les lieux du corps, sur les motifs également. Imaginez quelqu'un qui se balade dans les rues avec un motif nazi ou autre. Ça, ce serait quand même aussi très très mal vu. Donc il y a quand même un certain nombre, il y a une subversion qui demeure, mais surtout à travers les lieux du corps.
Alors parfois ces gestes, que ce soit le tatouage ou le piercing, hein, ça peut être douloureux quand selon le lieu du corps, selon l'importance du tatouage. Est-ce que parfois ça a du sens aussi que ça soit douloureux?
Oui, tout à fait. J'ai beaucoup travaillé sur la douleur. C'est l'une de mes recherches essentielles. Et là, on a affaire à une douleur choisie.
Oui, on reviendra sur la douleur des cicatrices après. Mais effectivement, là, c'est choisi.
Là, on a affaire à une douleur choisie, donc elle n'est absolument pas subie, et elle fait partie du jeu. J'ai même entendu des garçons ou des filles me dire, bien sûr, ça fait mal, mais c'est en même temps un moment important dans ta vie de te faire tatouer. Tu changes ton corps, tu changes ta relation avec les autres. C'est important que ça fasse mal parce que tu t'en souviendras davantage. Vous voyez, un peu. Et d'ailleurs, c'est souvent on évoque aussi la notion de rite de passage, etc. Donc, et une espèce de stéréotypie aussi quand même de l'idée que c'est bien que ça fasse mal parce que vous changez de vie, vous changez d'identité. Et puis en même temps, il y a une sorte de clin d'œil avec les sociétés traditionnelles où le tatouage ou les marques corporelles, en tous les cas, sont censées faire mal.
Quand on voit des personnes qui sont porteuses de dizaines de tatouages, hein, est-ce qu'il y a une addiction parfois à ce geste?
Le terme addiction me gêne, là, en l'occurrence, parce qu'on a affaire à des pratiques sociales, culturelles, et simplement, on a affaire à des hommes ou à des femmes qui ont adoré le moment de se faire tatouer, qui ont adoré la relation avec le tatouage, et puis qui ont envie vraiment de faire de leur corps un body art, en quelque sorte, une œuvre d'art. Donc non, je vois pas du tout, pour ma part, en tous les cas, d'addiction là-dessus. Ce serait un peu un jugement de valeur.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans le monde des pays qui interdisent le tatouage ?
À ma connaissance, non. Il y a des sociétés où c'est un peu dissuasif, évidemment. Dans sociétés musulmanes, par exemple, en principe, on ne touche pas au corps. Dieu a créé le corps parfait, et donc tout ajout, toute suppression de quelque chose du corps est plutôt mal vu. Mais il y a pas, je crois pas qu'il y ait des interdits au niveau législatif, par exemple, ou autre.
Et que pensent les différentes religions de ces pratiques dans l'histoire, hein, et même aujourd'hui, il y a des influences religieuses, il y a des choses qui sont inscrites dans les textes.
Oui, c'est vrai, dans la Bible, notamment dans le Deutéronome, dans d'autres textes de la Bible, il est écrit « tu ne te t'inciseras pas, tu ne te tatoueras pas ». C'est l'idée, évidemment, que le Dieu ayant créé un corps, parfait, le transformer serait évidemment une forme d'offense, une forme de rébellion à son égard. Donc non, en principe, les religions du livre restent relativement sobres au regard des transformations du corps, mais il y a quand même un certain nombre d'exceptions. On peut évoquer les croisés, par exemple, au moment du début du Moyen-Âge, qui partaient en Terre Sainte, et qui ne voulaient pas que leur corps soit mêlé au corps de ceux qu'ils combattaient. Donc il y avait la volonté d'être reconnu sur le champ de bataille, et puis de recevoir une sépulture chrétienne et autres. Donc une manière, là aussi, de se démarquer d'un autre perçu comme répugnant. Ceci dit, il y a aussi dans la tradition anté-islamique, avant l'islam, on rencontrait quand même assez régulièrement le tatouage. Et vous savez bien qu'il demeure encore aujourd'hui, par exemple dans la tradition berbère, où il peut nous arriver à Paris ou ailleurs de croiser des femmes, par exemple, femmes plutôt âgées, bien entendu, mais qui ont le menton, par exemple, avec des motifs. Là, on a affaire vraiment à des tatouages thérapeutiques, mais qui s'inscrivent dans une tradition et qui sont pas toujours très très bien vus quand même par l'islam. Même si le Coran, il faut le dire, ne dit absolument rien contre. C'est plutôt quelques hadiths qui disent, voilà, maudite soit la tatoueuse, maudite soit les femmes qui se tatouent. Curieusement d'ailleurs, c'est pas les hommes qui semblent être visés, mais je crois pas que beaucoup d'hommes d'ailleurs se tatouent en l'occurrence. Mais en islam, mais ce sont plutôt des femmes qui sont stigmatisées de vouloir ajouter à leur séduction. Les hadiths, ça renvoie plutôt à ça.
Vous avez évoqué les tatouages thérapeutiques, bien on en parle tout de suite.
France Culture, carnet de santé. Marina Carrère d'Encausse.
Alors, on parle tatouage, piercing et cicatrices dans Carnet de Santé aujourd'hui, une pratique qui s'est féminisée, généralisée à tous les âges et classes sociales. Avec nous pour en parler, David Le Breton, sociologue et anthropologue, une émission préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée par Thomas Jost, avec à la technique Alexandre Dang et Sacha Krine à la vidéo. Et on remercie Yann Aubert d'ici Alsace qui nous permet de réaliser ce duplex. Alors, c'est vrai qu'il y a un aspect du tatouage assez récent en Occident, qui est le tatouage thérapeutique, qui peut être pratiqué notamment après une mastectomie ou pour masquer une alopécie. Là, ça devient un soin. Carrément le tatouage.
Oui, je pense d'ailleurs qu'il l'est souvent. Le recours au tatouage peut se faire après des abus sexuels, après un accident grave, après avoir perdu un ami, une amie, etc. Mais vous avez raison que c'est une forme de résistance, finalement, pour bon nombre de femmes qui ont connu une ablation d'un sein ou des deux seins et qui, plutôt que de recourir à une reconstruction mammaire, vont recourir à de très très beaux tatouages. Et il y a un certain nombre de tatoueuses dans mon expérience sont plutôt des femmes qui vont faire un travail absolument magnifique. Et là, on est aussi dans une forme de reconquête de soi après avoir vécu la tragédie de la maladie, la mutilation de soi, etc. Là, il y a une manière d'imposer finalement sa souveraineté propre. Voilà, une signature de soi aussi. Je pense que le tatouage aujourd'hui est beaucoup une signature de soi. Mais c'est une forme de remise au monde qu'on retrouve d'ailleurs aussi chez des personnes qui ont été victimes d'un attentats à Paris, hein, ou à Bruxelles, ou à Londres, etc. On sait que beaucoup de ces hommes ou de ces femmes ont recouru également à des tatouages, soit sur leurs blessures, soit à côté, mais comme une sorte aussi de reconquête d'un corps qui leur a été arraché par la violence, et là, une manière de marquer son empreinte, finalement, de dire « mon corps m'appartient ».
Concernant les femmes, juste, je précise que les députés viennent d'approuver à l'unanimité une loi pour atténuer le reste à charge des patientes souffrant d'un cancer du sein, et que ce texte vise la prise en charge intégrale justement du tatouage médical de l'aréole et du mamelon. C'est une avancée importante pour les femmes. On va parler de votre livre, mais juste je voulais faire quelques rappels pour ceux qui souhaiteraient se faire tatouer, parce que ça n'est pas anodin. Donc, afin de choisir votre tatoueur, plusieurs choses. Assurez-vous qu'il dispose d'une déclaration d'activité délivrée par l'Agence régionale de santé. Vérifiez qu'il réalise chaque acte de tatouage dans une pièce exclusivement réservée à cet effet et nettoyée après chaque client. Soyez attentif au respect des règles d'hygiène, désinfection de la zone à tatouer, utilisation de gants et d'aiguilles à usage unique. Avant de réaliser le tatouage, le tatoueur doit vous alerter des risques auxquels vous vous exposez et il doit vous informer des précautions hygiéniques à respecter après la réalisation de ce tatouage. Ces informations doivent être remises par écrit. Si vous êtes mineur, vous devez absolument avoir le consentement d'un de vos parents ou de votre tuteur. Si ces bonnes pratiques ne sont pas respectées, eh bien, il est recommandé de ne pas procéder au tatouage ou d'aller ailleurs. Donc, je voulais parler maintenant de votre dernier livre, Cicatrice, l'existence dans la peau. On vient de parler de pratiques qui modifient votre corps, qui laissent une marque là où il n'y en avait pas et que l'on fait volontairement parfois avec douleur. Alors, comment on compare ces marques avec les cicatrices liées à des accidents, à des opérations non voulues, non choisies et plus ou moins douloureuses ?
Oui, évidemment, il y a une différence fondamentale entre un tatouage et une cicatrice. La cicatrice, c'est le heurt, le choc du monde qui vient s'inscrire sur sa peau, souvent dans des conditions traumatiques, sauf si on a affaire à des cicatrices de chute de vélo quand on était petit, ou quand on faisait nos premiers pas, ou des jeux d'enfant. Et dans ce cas-là, on peut dire que souvent nos cicatrices sont des rappels de mémoire. On s'en souvient avec émotion. D'ailleurs, regardez le quand Paul Auster, le grand écrivain américain, écrit ses mémoires, il énumère une douzaine de cicatrices qu'il a sur la peau et qui sont quasiment toutes le fruit de son enfance ou de son adolescence. Et puis évidemment, il y a des cicatrices beaucoup plus dures, séquelles d'attentats, d'accidents, d'agressions ou autres. Voilà. Et donc à chaque fois, évidemment, ces cicatrices portent une signification différente qui peut être liée aux circonstances de leur apparition. Il est clair que la cicatrice, par exemple, d'un viol, d'un accident, d'un attentat, va rester une trace de mémoire plutôt néfaste sur le corps. En permanence, elle va rappeler la tragédie. Il existe aussi quand même des cicatrices qui sont délibérément choisies. C'est pas du tout dans nos traditions en France, mais par exemple aux États-Unis ou en Amérique, au Canada, vous pouvez vous faire des burnings, des cuttings, donc des marquages au fer rouge, des cicatrices, des incisions, mais qui vont être évidemment très délibérées, très très géométriques, très belles, etc. Voilà, donc on pourrait dire cicatrice subie et tatouage choisi.
Il y a quand même des cicatrices qui sont plus douloureuses, notamment par exemple les brûlures, on sait que ça dure très longtemps dans le temps, elles sont très affirmées physiquement. C'est plus compliqué à vivre, c'est perçu différemment par la personne qui la porte.
En fait, tout dépend vraiment du contexte, là aussi. Il n'y a pas vraiment de réponse. Et d'ailleurs, à l'origine de mon livre, il y a quelques années, j'ai beaucoup travaillé sur les scarifications de nos adolescentes, par exemple. Et j'avais été frappé du fait qu'un certain nombre de ces adolescentes, qui maintenant étaient devenues des femmes et ne se scarifiaient plus, un certain nombre d'entre elles me disaient « Quand je vois mes cicatrices, ça me rappelle des moments vraiment terribles de ma vie. Je veux absolument les effacer. Hein ?» D'autres, à l'inverse, me disaient « Quand je vois mes cicatrices, je me rappelle de moments vraiment très durs dans ma vie, mais ça me rappelle que j'étais capable de résister, que j'ai été suffisamment forte. Et quand je regarde mes cicatrices, je me dis en ce moment, ça va pas très bien, mais je dois poursuivre finalement ma résistance, mon combat, etc. » Un peu comme si, chez ces jeunes femmes, les cicatrices étaient devenues un talisman, en quelque sorte. médecin, une sorte de bouclier protecteur contre l'adversité du monde. Donc on peut pas, même après un attentat, même après une agression, il y a un certain nombre de cicatrices qui peuvent devenir positives entre guillemets, et puis d'autres qui vont rester absolument désespérantes, désespérées. Tout dépend de nos histoires de vie, de nos capacités de résilience, j'aime mieux dire d'ailleurs pour ma part de résistance, comment on s'approprie l'événement et comment on en fait éventuellement un tremplin pour devenir plus forte, plus heureux, ou au contraire, comme si on en fait une sorte de rappel permanent de l'horreur qu'on a pu vivre. La durée de cicatrisation, à mon avis, là, je ne joue pas vraiment.
On a évoqué les tatouages après mastectomie. C'est vrai qu'il y a des femmes qui, donc, à qui on enlève le sein pour un cancer, qui ne souhaitent pas porter de prothèse, qui ont donc une large cicatrice et plus de sein, et qui souhaitent un tatouage derrière. C'est quoi ? C'est une façon quand même de revendiquer la cicatrice ?
Oui, c'est une manière de revendiquer la cicatrice, de considérer aussi d'ailleurs que la féminité n'est pas l'addition d'un certain nombre d'éléments sexuels comme d'avoir deux seins. C'est une manière de reprendre en main son corps après toutes les opérations médicales. Et dans les femmes que j'ai rencontrées à cet égard me disaient justement qu'elles ne supportaient plus le fait que leur corps soit charcuté à ce point-là. Et effectivement, la reconstruction mammaire implique aussi des greffes de peau. Donc il faut reprendre des fragments de peau sur différents points du corps, etc. Et puis c'est surtout cette espèce de subordination sans fin à la médecine, à la chirurgie. Et donc ce sont des femmes qui veulent prendre leur envol, qui assumer leur liberté, et plutôt d'ailleurs avoir une relation de dialogue avec une tatoueuse qui va être une femme qui va reconnaître leur souffrance et qui va les aider à se réparer entre guillemets. Mais j'aime mieux dire plutôt se remettre au monde, quoi, parce que finalement c'est une forme de renaissance et les cicatrices sont une sorte de trophée aussi que ces femmes ont arraché à la mort, d'une certaine manière.
Est-ce que les représentations des cicatrices varient selon que l'on est un homme ou une femme, en dehors effectivement de l'histoire personnelle qui a amené ces cicatrices ?
Oui, vous avez raison. Je pense que dans bon nombre de cas, les cicatrices virilisent les hommes. D'ailleurs, vous avez un certain nombre d'hommes qui ont des blessures sur le visage et qui refusent une reconstruction, qui refusent la chirurgie reconstructive. Parce que pour eux, c'est un signe de virilité, de bravoure également. Ce sont souvent des militaires, d'ailleurs, qui ont réalisé des actes formidables en sauvant d'autres. Voilà. Et pour eux, il n'y a pas de raison de changer quoi que ce soit. À l'inverse, on peut dire que les cicatrices tendent à déféminiser les femmes, particulièrement quand c'est sur le visage, évidemment. Mais sur d'autres points du corps également, et j'ai recueilli beaucoup de témoignages de femmes qui me disaient « après ma cicatrice, je me suis sentie devenue moche », etc. Et parfois, des cicatrices quasiment invisibles, c'est ça qui est
étonnant. Oui, ça c'est très étonnant, effectivement. Oui. C'est pas proportionnel, effectivement, à ce que les autres voient.
Non, pas du tout, et ça trouble parfois les chirurgiens esthétiques, effectivement, qui disent, mais vous venez me voir pour que j'enlève une cicatrice, mais ça fait un quart d'heure qu'on parle, je n'avais pas vu sur votre visage ou avant que vous ne m'en parliez vous-même. Pensez-vous que ce soit vraiment nécessaire de l'enlever? Mais à ce moment-là, on comprend effectivement que cette femme qui veut enlever sa cicatrice, c'est par exemple les traces d'une maltraitance d'enfance, d'une agression. C'est peut-être un tout petit point sur le corps, mais c'est un point qui est devenu une espèce de capitale d'un sentiment de détresse, de dépossession de soi dans son histoire personnelle.
Justement, comment on perçoit on finira avec cette question, le regard de l'autre sur une cicatrice par rapport, par exemple, à un piercing ? On le vit ?
Ah, je pense que le piercing aujourd'hui est plutôt valorisé, donc il fait partie un peu un peu comme le tatouage. Le tatouage est un bijou cutané, le piercing est un tatouage plus traditionnel. Mais non, là, il y a plutôt une valorisation de soi. La cicatrice, elle reste quand même assez problématique. J'ai eu beaucoup de témoignages d'hommes ou de femmes qui me disaient, j'en ai marre de la curiosité de tous ceux qui me demandent où t'as eu ça, comment t'as pu faire ça, etc.
Merci, on n'a plus de temps, mais je vous remercie infiniment, David Le Breton, pour ce que vous nous avez apporté aujourd'hui. Merci beaucoup.